France Musique.
Merci Lionel. On vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit. C'est reparti.
Notre invité sera ce soir Francis Daumont, pionnier de la musique acousmatique, dont l'œuvre intense traverse le temps avec délicatesse et force. Mais ouvrons cette émission avec un chapitre consacré à l'actualité et un festival, le festival Aujourd'hui Musique à Perpignan. Et pour nous parler de cet événement, nous recevons Jackie Surjus, programmatrice d'Aujourd'hui Musique. Nouvelle édition du festival Aujourd'hui Musique, 25e édition. Quels sont les temps forts de cet événement ?
Il y a beaucoup, beaucoup de temps forts. Effectivement, c'est un festival qui a un quart de siècle. On a voulu le fêter. Il y aura 4 créations, dont des commandes du festival. On a énormément développé un nouvel espace de jeu qui est dans le grand hall de la grande verrière du théâtre de l'Archipel, qui est un énorme bateau, qui est une collection d'objets reliés par des verrières. Donc on a un nouvel espace scénique dans la verrière où là, il y aura tous les soirs un avant-concert d'une demi-heure avec 3 créations, 3 commandes du festival, une nouvelle ère de jeu, j'ai envie de dire. Et ensuite, pour cette 25e édition, l'idée, c'était de mettre en résonance tous les espaces du théâtre de l'Archipel, y compris les espaces qui ne sont pas accessibles au public. Donc on a développé les installations sonores interactives. On a une installation avec le Centre National de Création Musicale de Reims et on a une série d'installations avec Scénocosme. L'idée vraiment, c'est que ces espaces-là soient des espaces de partage, c'est-à-dire que les paysages sonores se révèlent si on est à plusieurs pour mettre en vie tous ces univers-là. Cette édition, elle est surtout axée sur ça, sur la rencontre, le partage, l'échange. C'est pas simplement rendre ludique une manifestation, c'est la rendre accessible à tous. Et dans ces temps troubles et troublés, je pense que c'est très important de créer ce genre de cérémonie où tout le monde se rencontre, où il y a un partage, où il y a des échanges et où il y a ces découvertes d'univers sonore, cette immersion sensorielle. Et donc on a aussi développé les déambulations sensorielles avec des guides. Donc il y a des groupes qui partiront de différents endroits du théâtre et qui, à l'occasion de ces déambulations pour en écouter un quatuor qui jouera Shostakovich, Steve Reich, Kenji Bush, un petit cirque électro, les installations auxquelles il faut donner vie. C'est les nouveautés de la 25e édition, fêter ses 25 ans de manière joyeuse et dans un partage total.
Le festival était à l'origine très lié au conservatoire de Perpignan,
oui.
Un gros conservatoire avec beaucoup d'étudiants,
oui.
Notamment dans un cadre pédagogique. Quelle est aujourd'hui la nature de ce lien ?
Dans ces avant-concerts, c'est l'occasion aussi d'offrir la scène à des artistes issus du conservatoire. Dans les commandes du festival, il y a une commande par exemple à Alexander Vert, qui est un ancien élève du conservatoire et qui est aujourd'hui compositeur, qui a sa propre structure. Il y a une commande à Nina O, qui sera interprété par les forces vives du conservatoire, le département de musiques actuelles. Il y a une commande à Lara Morciano, qui est une compositrice italienne qui n'a rien à voir avec le conservatoire. Mais l'idée, justement, c'est que tous ces créateurs se rencontrent. Et il y a surtout l'ouverture du festival, qui est un hommage à Steve Reich, avec Desert Music. Et là, au plateau, évidemment, Daniel Tosi, l'orchestre du conservatoire et les chœurs du conservatoire. Donc on est toujours proche de ce lieu d'enseignement qui est un lieu exceptionnel. Et puis il y a tout un travail pédagogique, c'est-à-dire que les compositeurs, les compagnies que nous recevons, comme Thierry Ballas avec la messe pour le temps présent, il y aura des masterclass au conservatoire. Voilà, il y a un échange permanent entre aujourd'hui le théâtre de l'archipel scène nationale et le CRR de Perpignan.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne, France Musique.
Vous dirigez le Festival Hors de Musique depuis quelques années. Comment vous voyez-vous l'évolution du langage ?
Le festival, c'est un festival de création sonore et visuelle. Il me semble que les compositeurs ont décidé d'abolir les frontières et que c'est au croisement des arts qu'il se passe quelque chose que l'on peut dire de jubilatoire. Ces rencontres, par exemple, Roland Osé, qui est artiste associé au Théâtre de l'Archipel, on a ouvert la saison avec un rendez-vous de théâtre musical Ninette Inferno, quatuor de Bussy, un circassien et le comédien Pascal Grégory. Je trouve que la démarche de Roland illustre la couleur du festival. Là, il y a une création, une commande. Il est en résidence de création en ce moment au Théâtre de l'Archipel, sur justement un propos musical, mais aussi avec un gros travail scénographique. Que c'est à cet endroit-là que l'on doit se situer. Ça n'empêche pas qu'il y ait le Quatuor Bella avec un programme du Sapin, Patard et de Bussy. Il y a la messe pour le temps présent, mais il y a aussi des aventures totalement transversales.
Le festival est étroitement lié, vous venez de le dire, à ce bel écrin qu'est le Théâtre de l'Archipel. Quelle est la place de la création musicale dans toute la saison ?
Elle est pour l'instant concentrée sur le festival. Ensuite, on a des rendez-vous avec le conservatoire dans la saison où les étudiants du conservatoire s'expriment au Théâtre de l'Archipel sur des compositions ou sur des reprises. Et après, le reste de la programmation, ça reste du répertoire. Vraiment, le focus, c'est sur la période de novembre et sur le festival Aujourd'hui Musique.
Merci beaucoup, Jacques Surjou, d'être venu nous parler de ce festival du 18 au 27 novembre au Théâtre de l'Archipel à Perpignan.
Oui, merci à vous.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Véritable pionnier des musiques pour bande, Francis Daumont poursuit ses carrières de compositeur avec indépendance depuis plus d'un demi-siècle. Défenseur de la démarche acousmatique, Francis Daumont enseigna pendant plus de 15 ans au Canada, sa seconde patrie, sans jamais stopper sa production féconde de pièces électroacoustiques qu'il aura donné à entendre dans le monde entier. C'est à l'occasion de la création de sa nouvelle œuvre, Phoenix 21, donnée lors d'un concert de la saison multiphonie de l'INAGRM à la MP2A, Auditorium Saint-Germain, que nous l'avons interviewé. Francis Daumont est l'invité de ce tapage nocturne.
Après, La maman a dit au papa, t'as qu'à aller les porter à la forêt pour que le loup les mange. Oui. Et il voulait pas, hein.
Il n'avait jamais été un lieu plus agréable. Les myrtes et les orangers joignaient leurs branches ensemble pour former de longues allées couvertes et des cabinets où le soleil ne pouvait pénétrer. 1000 ruisseaux de fontaines qui coulaient doucement contribuaient à rafraîchir ce beau séjour. Mais ce qui était le plus rare, c'est que tous les animaux y parlaient.
Pour tous ceux qui ont entendu des contes de fées, l'image de l'enfant qui se sent perdu au fin fond d'une sombre forêt est inoubliable.
J'ai commencé par la musique traditionnelle, la musique instrumentale. J'ai travaillé avec d'excellents professeurs. Une dame qui n'est pas très connue, mais qui était professeure à l'École normale de musique de Paris, c'était Ginette Valmeyer, qui m'a appris les rudiments, le solfège, les débuts de l'harmonie. Ensuite, j'ai travaillé avec Charles Quéclin, ça ne nous rajeunit pas, et avec Nadia Boulanger pour les cours de cantate. Ça, c'est ma partie musicien instrumental. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'était pas, au bout de quelques années, que ça n'était pas vraiment mon domaine et que la musique électroacoustique que j'ai en quelque sorte découvert tout seul parce que j'avais mis la main sur un magnétophone Webster qui était l'ancêtre des magnétophones, c'était un magnétophone à fil, un magnétophone qui avait été apporté par les Américains à la Libération et qui servait pour les hommes d'affaires à dicter leurs courriers. Et j'ai donc pu me rendre compte que enregistrer et contrôler tout de suite ce qu'on avait enregistré, même si c'était très médiocre comme qualité sonore, était d'un grand intérêt. C'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher de plus en plus à une musique enregistrée, à des sons captés par microphone, et à lâcher progressivement la musique instrumentale, car je me trouvais beaucoup mieux dans cet univers de sons qu'ensuite on a qualifié de morphologie, enfin voilà, il y a toute une école qui s'est construite là-dessus. J'ai connu le GRM notamment par les disques qui étaient publiés à l'époque, qui n'étaient pas d'une très bonne qualité technique, Prospective du 21e siècle, il me semble que ça s'appelait. Il y avait un souffle assez impressionnant sur le disque, mais ça m'a permis d'entrer en contact avec cette musique qui ressemblait beaucoup à ce que j'essayais de faire. Et d'ailleurs, je dis que j'ai découvert tout seul la musique concrète, parce que j'ai fait des essais sur mon fameux magnétophone à fil, alors que je ne connaissais pas du tout l'existence de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry, qui étaient les initiateurs de cette musique. Et donc ensuite, je suis tombé par hasard à la radio, Radio Paris, sur un concert que donnait Pierre Schaeffer. Et voilà, j'ai dit, ça c'est très étonnant, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Alors ensuite, j'ai donc su qu'un groupe existait, le GRM, et je me suis intéressé à cette musique de plus en plus. J'ai commencé à suivre des concerts et à la radio. J'ai beaucoup écouté la radio qui, à l'époque, donnait souvent des pièces électroacoustiques. Voilà, c'est comme ça que j'ai débuté. Ensuite, j'ai fait connaissance avec les gens du GRM, avec François Bell notamment, Barbara Parmigiani, Michel Sion. Je les ai même invités à Saint-Rémy de Provence où je m'occupais d'un festival de musique. Et voilà, les choses ont évolué. Ensuite, je suis parti au Canada. J'ai enseigné 16 ans, je suis resté 26 ans là-bas, à Montréal. Et j'ai enseigné à l'Université de Montréal pendant 16 ans. La composition électroacoustique et aussi la perception auditive, l'écriture électroacoustique, c'est-à-dire les moyens employés par les compositeurs pour échafauder leurs pièces et comment ils utilisaient le microphone, comment ils utilisaient les appareils de traitement. Voilà, j'ai fait ça pendant pas mal d'années, pendant 16 ans. Il y avait donc Marcel Deschênes, qui avait aussi travaillé au GRM, Micheline Colombe-Zamarcou, qui faisait moins d'électroacoustique à ce moment-là. Elle avait repris l'instrumental beaucoup. Mais il y avait aussi les gens qui avaient travaillé avec Savouret, notamment, Yves Daou. Il y avait donc une tendance électroacoustique qui était déjà affirmée. C'était pas les balbutiements, c'était mieux que ça. Alors moi, ce que j'ai apporté, je crois, c'est ce que j'avais appris du GRM, notamment la projection spatiale, c'est-à-dire la mise en espace du son, qui était assez rudimentaire à Montréal. Au début, j'ai même été, par les anglophones, un petit peu critiqué, on ne touche pas à cette musique en cours de route, etc. Mais moi, je trouvais que c'était très bien de pouvoir jouer en direct sur une chose statique qui était une écriture fixe, fixée sur support, sur bande magnétique, et on pouvait quand même apporter des modulations particulières pendant l'interprétation. Et ça, j'ai trouvé que, enfin, c'est une chose qui m'avait beaucoup plu et que j'ai développé énormément à Montréal, notamment lorsque j'ai enseigné à l'Université de Montréal, où j'avais organisé des concerts assez réguliers qui permettaient d'écouter notamment des œuvres européennes, et qui était projeté dans l'espace, qui était interprété, qui n'était pas simplement ce qu'il y avait sur la bande et que tout le monde pouvait écouter par disque.
Thank you. n'est rien.
Chambre close où il est interdit d'entrer.
Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est rien. Ce n'est rien, chérie.
Là-dessus, j'ai écrit certaines choses. Mon œuvre se divise en deux parties, dont une plus importante que l'autre, ce que j'appelle les musiques abstraites et les musiques figuratives, en m'inspirant de l'œuvre des peintres, les œuvres abstraites, les œuvres figuratives. Les musiques abstraites, pour moi, ce sont des musiques qui ne parlent que de musique, c'est-à-dire qui jouent sur les hauteurs, les durées, la vitesse, l'espace, la nature du son, voilà. Donc, il n'y a pas de thématique particulière autre que le jeu avec les sons, un jeu organisé, bien sûr, avec les sons. C'est ce que préconisait Stravinsky, notamment. Mais j'ai une grande tendance très forte à introduire dans mes musiques des éléments extérieurs à la musique, c'est-à-dire des éléments littéraires, des éléments philosophiques, picturaux, politiques, psychanalytiques, etc. Et c'est vrai que la plus grande partie de mon travail s'inspire d'éléments extra-musicaux.
Thank you.
Phénix 21. Alors ça, c'est très particulier. C'est un peu exceptionnel dans ma production. Je classerais ça effectivement dans les musiques abstraites, c'est-à-dire les musiques qui n'ont de but et d'objet que la musique elle-même. Et Phénix, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une espèce de renaissance musicale, c'est-à-dire que j'ai eu l'intention très déterminée de quitter mon travail habituel, ce qui a dirigé beaucoup de mes réflexions musicales pendant des années, pour entrer dans un domaine un peu différent, qui m'échappait un peu. Et je dois dire que cette pièce a été difficile au début, parce que je ne me reconnaissais pas. C'était quelque chose de nouveau, et en fait c'est ce que je désirais, quelque chose qui change un petit peu de mes habitudes. Les premiers temps, j'avais l'impression d'avoir un alien en face de moi, quelque chose qui ne m'appartenait pas vraiment, qui me surprenait, qui m'inquiétait un peu. Et petit à petit, j'ai réussi à maîtriser ça, à comprendre comment ça fonctionnait, et alors là, les choses se sont très bien passées. À partir du moment où j'ai pu entrer dans cette chose inconnue, je me suis mis à avancer très bien dans l'œuvre et là, elle a pris son envol. Alors, pourquoi Phénix ? Eh bien, justement, parce que c'est une espèce de renaissance sur mes cendres passées. Et puis aussi, j'ai été chercher des éléments sonores que j'avais captés 40 ans avant. J'ai été retrouver de la musique instrumentale à partir de laquelle j'ai travaillé le son, c'est-à-dire je n'ai pas copié la musique instrumentale, j'ai simplement travaillé de façon à obtenir des matériologies un peu différentes de celles que j'utilise d'habitude. Et voilà, c'était pour moi, je veux dire, le Phénix était une renaissance personnelle, en quelque sorte.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était Alexandre Bazin, attaché de production Soizic Noël, et chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Al'Abrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.